Pourquoi diffusion est important pour son ranking?
Son ranking,
oui, bien sûr, pour le ranking de l'ULB. Au plus les publications sont visibles, au plus elles sont accessibles, au plus elles sont susceptibles d'être citées, au plus les publications sont citées, au plus d'une université, au plus l'université monte dans les rankings. Donc c'est un incitant très fort pour les autorités à vous inciter à déposer vos articles dans diffusion.
Et puis peut-être je me permets juste de rajouter une petite chose, c'est que ça va peut-être nous permettre rétrospectivement de corriger des biais dans les bases de données commerciales où il y a des problèmes d'homonymie ou des problèmes de définition de l'ULB. Donc pour l'instant, par exemple, dans Scopus, il y a 43 dénominations différentes pour Université Libre de Bruxelles. Et il y a aussi des auteurs qui sont connus par de multiples Scopus ID dans cette base de données. Donc, rétrospectivement, on va pouvoir essayer de faire corriger ce biais. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été conduite il y a quelque temps, je ne saurais pas dire exactement quand, mais qui a montré que l'impact des publications des chercheurs de l'ULB était diminué de 30% par rapport à ce que c'était réellement, parce qu'on ratait plein de publications qui étaient publiées par des gens de l'ULB et qui étaient reconnus comme, par exemple, de la VUB, Free University of Brussels, et des choses comme ça. Donc c'est vraiment important de recenser à un endroit toutes les publications des chercheurs de l'ULB pour pouvoir essayer de corriger un peu ce biais.
Vous posez une question à propos de l'avenant que vous suggérez. Ça vient quand dans le processus de publication?
Quand vous recevez le contrat de l'éditeur qui vous invite à signer le contrat, en principe, c'est quand votre article est accepté pour publication.
Il y a déjà eu un brainstorming éventuel dont on a pu profiter, et puis alors on vient avec ça.
C'est l'éditeur qui vous envoie le contrat au moment où votre article est prêt à être publié. Et quand vous recevez le contrat, vous le signez, vous ajoutez l'avenant et vous expliquez évidemment pourquoi vous demandez à conserver certains droits.
Il y a des éditeurs, je crois, qui ne font pas signer. Mais si vous signez rien, vous gardez vos droits, évidemment.
En ce qui concerne les lecteurs, est-ce que l'auteur qui soumet sa publication a toujours connaissance de l'identité des lecteurs désignés? Ou parfois, pour certaines revues, cette identité est cachée ou...
C'est pour vous, je crois.
Vous voulez la phrase parce que j'ai...
Le réviseur.
Je voulais savoir si l'identité des lecteurs qui ont été désignés...
Toujours cachée.
Toujours cachée.
Toujours. Enfin, pour toutes mes revues que moi je connais, en tout cas, c'est anonyme, tout à fait anonyme. Parfois même, la revue, dont les auteurs de l'article
sont
cachés parfois. Mais c'est très bien. C'est plus rare quand même, en général. Mais il y a des revues où on cache le nom de l'auteur.
Et le lecteur ne peut donc jamais de lui-même contacter directement l'auteur de l'article.
Dans ces revues-là, non. Si l'auteur
l'auteur est connu.
Si l'auteur est connu, le lecteur a toujours le droit de le contacter. S'il veut se montrer, il peut sortir de l'anonymat. Tout à fait. Il y a des lecteurs qui sortent de l'anonymat et qui disent « Moi, je veux bien que donner un coup de main. » Encore améliorer, que l'auteur peut me recontacter et il met son nom. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive.
Et donc, est-ce qu'il existe un moyen de commenter? C'est-à-dire, s'il y en a des commentaires majeurs ou mineurs, peu importe, et que d'une manière ou d'une autre, on peut répondre à ces commentaires pour justifier un lettre ou un autre, il faut passer alors par l'éditeur.
Oui, on repasse par l'éditeur qui va lire les commentaires vis-à-vis des remarques du référé, de l'arbitre, du lecteur. Et oui, on relit les commentaires et souvent on est d'accord avec les référés. On peut aussi dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord ou on n'est pas du tout d'accord. Bien sûr, il faut se justifier. Il ne faut pas nécessairement toujours être d'accord avec un lecteur. Hein. On peut dire non, on n'est pas d'accord avec ça et c'est pour ça qu'on ne corrige pas notre article en fonction de ce qu'il a dit. Parce qu'on préfère le laisser. Et là, ce sera quand même encore l'éditeur qui aura le dernier mot. éventuellement, si l'éditeur hésite, on peut faire appel à un troisième référé, voire un quatrième, voire un cinquième. Mais ça prend beaucoup de temps, et c'est vrai qu'on sature un peu les lecteurs, mais pour être sûr. Alors parfois, ce qui arrive aussi, certaines revues scientifiques autorisent des lettres à l'éditeur. Et ça, je commence à trouver ça dangereux. Parce qu'il y a des auteurs qui m'écrivent des lettres en disant, voilà, je vous écris une lettre parce que celui-là a publié il y a 5-6 ans un article et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il aurait dû faire ceci, si ça, ça. Et donc ça, c'est assez délicat, des lettres qui contredisent des résultats ou qui trouvent qu'ils auraient dû. Alors je leur dis, écoutez, faites plutôt un article, faites vos manips chez vous, démontrez plutôt que d'écrire une lettre à moi que je publierai simplement. Démontrer par un rapport scientifique réellement que les autres n'ont pas, ou ne travaillent pas bien, ou auraient dû faire comme ça. Mais on peut écrire des lettres à l'éditeur, parfois. Si on estime qu'il y a danger, parfois, certains utilisent des statistiques non appropriées, on peut parfois dire, écoutez, attention, il vaudrait mieux utiliser ce genre de statistiques-là pour analyser ces résultats-là. Et on constate actuellement qu'il y a une tendance dans le domaine scientifique d'utiliser les mauvaises statistiques. C'est le genre de lettres qu'on peut éventuellement accepter. On en reste assez général. Il ne faut pas viser quelqu'un, c'est pas bon de viser quelqu'un, un article. On peut rester très général, alors on peut accepter une lettre à l'éditeur.
Une question pour vous. Oui. Vous aviez l'air assez virulent là envers les légendes de figures.
Oui.
Et donc, moi, mon avis jusqu'ici, c'était que, en tant que lecteur, après avoir lu Abstract, Conclusion, l'étape suivante, c'est les figures.
Oui.
Avant de s'attaquer à la lecture.
Oui.
Et donc, j'avais l'impression qu'une bonne figure et une bonne légende, c'était vraiment que la légende, c'est le message, enfin, ce qu'on doit retenir, quitte à ce que ça passe trois lignes, s'il faut que le message, il passe en...
Une légende peut avoir trois lignes, oui. Mais il suffit d'indiquer par des mots-clés le contenu de la légende. Il ne faut pas dire...
Ça se confiait pas sujet vers complément quand vous
voilà. Faites la légende. Oui, je ne le ferai pas, non, parce qu'on comprend assez rapidement avec les mots-clés la légende. On ne met pas les mesures ont été effectuées à pH. Quoi. On met pH, c'est température au temps et pas à température de. Il ne faut pas mettre de complément ni d'adjectif. On met simplement les conditions opératoires.
Ce n'est pas des messages, peut-être. C'est peut-être des paquets.
C'est des conditions opératoires. Oui, mais le message de la figure se trouve dans le texte.
Pas dans la légende.
Non, pas dans la légende. Je trouve ça logique. Parce que la figure, déjà, dans sa formation, c'est le message de l'analyse se trouve dans le texte. Ah oui, mais pas dans la légende, non. Généralement. Pour éviter. Mettre des messages dans la légende. Mais ça, si vous évitez, et si vous voulez publier dans une revue, regardez aussi, c'est toujours bien de regarder les autres articles, comment ils ont été perçus, comment ils ont été faits, et ça vous donnera un exemple que vous voulez aller dans cette tendance-là. Il est peut-être possible que pour certaines thématiques de recherche, on développe beaucoup plus la légende, généralement. C'est jamais. Donc, il faut regarder un peu les tendances du journal. Très important de regarder les tendances en carrière du journal.
Est-ce que quand on dépose sur un texte en diffusion, avant qu'il ne soit accepté pour publication, est-ce que ça peut faire des problèmes pour une éventuelle publication si on a limité l'accès à la communauté de.
Oui, tout à fait. C'est soit accès personnel, accès ULB ou accès Internet.
Est-ce que dans le cas où on a limité à ULB, est-ce que ça peut poser problème
Peut-être pour certains éditeurs, ça peut poser problème. Donc, dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de le garder en accès personnel jusqu'à ce qu'on ait une réponse. Ou s'il n'est pas accepté pour publication, alors vous pouvez décider de l'accès que vous voulez. C'est juste un article qui n'est pas publié.
Moi, je voudrais être un peu critique vis-à-vis de... Enfin, critique. Oui, vous avez dit que 4 millions, on paie à l'ULB 4 millions d'euros pour l'abonnement à quelle revue? Toutes les revues d'éditeurs?
Non, nous avons un budget de... Nous atteignons presque 4 millions d'euros de budget documentaire.
Le budget pour 4 millions, c'est ça. Mais vous dites qu'on pourrait avoir... on pourrait avoir... Vous pourrez faire de la bonne recherche par ailleurs si vous pouvez les utiliser pour autre chose, c'est ça?
Non, j'ai dit, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, vous imaginez ce que ça représente,
oui,
comme montant. C'est quand même énorme, oui. 4 millions.
C'est un bel appareil, oui.
Mais
donc, il faut le considérer, je crois, comme outil qui permet d'avoir aussi, c'est pas réellement un archivage, c'est plus qu'un archivage. Ça permet aussi à des scientifiques, en rentrant des mots-clés et avec les outils qui sont développés actuellement par les différents éditeurs, ça permet aussi de voir dans quelle mesure sa recherche ou son article qu'on va écrire se situe bien dans le contexte.
Mais je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de...
Donc c'est un outil, c'est
bien
un
sûr.
Outil du chercheur.
Mais je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des ressources documentaires, loin de là. Je dis que le prix est excessif. C'est tout à fait différent.
Mais ça dépend. Parce qu'on arrive à faire des publications scientifiques de qualité grâce aux informations qui nous sont fournies partout.
Bien sûr. Hein?
Donc,
vous savez, il y a une étude qui a paru en 2006 et qui montre que l'évolution du marché des publications scientifiques et qui montre que les éditeurs commerciaux, le prix de revient d'un article, enfin le prix, ce que coûte la consultation d'un article chez les éditeurs scientifiques, c'est 3 fois plus cher que pour un éditeur, pour un éditeur commercial et 3 fois plus cher que pour un éditeur non commercial. Donc les presses universitaires, par exemple, c'est typiquement des éditeurs non commerciaux. Ou des organismes, des sociétés savantes qui éditent des revues, c'est typiquement des éditeurs non commerciaux. Donc chez eux, les revues sont beaucoup moins chères. Donc ce que moi je dis, c'est qu'on peut faire de la publication scientifique beaucoup moins chère.
Peut-être, mais est-ce que vous comptez, par exemple ici dans les archives ouvertes diffusion, si vous faites travailler le chercheur ? À rentrer ça là-dedans, ça nous prend du temps aussi. Donc, est-ce que vous comptez le prix investi par le chercheur à rentrer ça dans son... est-ce que ça coûte aussi, ça, non ? Ou bien on ne l'estime pas ?
Ça coûte, mais je ne suis pas sûre que ça coûte aussi cher que ce qu'on paye pour avoir accès à la documentation.
Peut-être, oui, mais il faudrait le chiffrer aussi. Ça prend du temps pour nous.
Vous savez, sur le long terme, quand vous cédez vos droits, c'est jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Donc l'accès à la documentation, elle reste bloquée. Donc maintenant pour vous, jeune chercheur, pendant toute la durée de votre carrière, de votre pension, et jusqu'à 70 ans après votre mort, on n'a pas accès à cette documentation. Elle est derrière une barrière. Donc c'est énorme. Ça ne se justifie pas. L'éditeur peut garder les droits pour l'exploitation commerciale. Ça, c'est tout à fait justifié. Il y a beaucoup d'investissements, c'est normal qu'on exploite. Mais il doit libérer l'accès à partir d'un certain moment pour qu'on puisse tous bénéficier des résultats de la recherche, financés quand même essentiellement par le public. Hein.
C'est oui. Qui... Et donc là, il y a certains éditeurs qui libèrent quand même. Après,
oui, certains. Mais nous avons dû acheter les archives Elsevier. Notamment.
Et peut-être pour ajouter quelque chose. Donc, pardon. Mais enfin, c'était juste pour rebondir sur ça. Donc, on a quelque chose comme 15 000 revues. Hein. Il y en a plus de 300 000 dans le monde. Et moi, à chaque fois que je présente diffusion, il y a toujours au moins une personne dans le public qui me dit « Ah ben oui, tiens, moi j'ai publié dans telle revue. » Et en fait, j'ai même pas accès à ce que j'ai publié parce que la revue, on peut pas s'abonner parce que ça coûte trop cher.
Oui.
Il y a quand même un problème. Parce que ça veut dire que lui, il n'a pas accès, mais bon, à la limite, il l'a écrit.
Oui.
Ça veut dire que ses collègues n'ont pas accès, que ses collègues dans le monde entier, éventuellement, n'ont pas accès. Enfin, je veux dire, ça pose vraiment des problèmes d'accès aux résultats de la recherche, hein. ces prix-là, enfin, à mon avis.
Bah, moi, je voulais aussi dire que si vous dites qu'il faut calculer le temps du chercheur qui met ses données dans le système, est-ce qu'il y a un système équivalent qui est offert par les données commerciales ? Je veux dire, il n'y a pas un système intégré. On ne peut pas comparer ça, puisque ce temps de travail, bien sûr, il est là, mais on ne peut pas s'en passer si on peut vivre dans des revues commerciales, parce que le résultat n'est quand même pas le même. Parce que l'accessibilité, il n'y a pas de système de consultation ouvert, intégré, je
veux dire. De toute façon, vous êtes tenu de tenir un CV académique de vos publications quelque part, simplement, diffusion vous permet d'obtenir à un endroit qui permet après d'exporter les données dans toutes sortes d'autres ressources, sous toutes sortes de formats écrits, pour des demandes, des formulaires de demandes de promotion, de suivi ou quoi que ce soit. C'est un service qui vous permet d'une part de stocker votre CV et de le mettre à jour. Donc c'est vrai que le rétrospectif est un peu lourd, mais ça, les bibliothèques investissent face au recteur pour soutenir ce travail. Mais donc, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à maintenir.
Oui.
Vous le maintenez dans la diffusion, le maintenir dans un format, dans un fichier Word, Excel ou quoi que ce soit. C'est tout, pas pour tout. Et par ailleurs, vous avez aussi là une archive sécurisée. Si votre ordinateur crache, vous savez que Diffusion a gardé toutes les versions que vous y avez entreposées. Et pour que les ordinateurs de Diffusion crachent, il en faudra déjà beaucoup plus que pour le vôtre. Donc c'est aussi une sécurité pour votre propre publication, votre propre production scientifique.
Et comme vous pouvez réserver l'accès à vous seul, vous pouvez stocker des choses même très confidentielles. Une fois que c'est vous seul qui pouvez consulter, il n'y a que vous qui avez accès. Oui, mais c'est un coût qui est assumé par l'institution.
Ce n'est pas l'objectif.
Non, mais comment ensuite les chercheurs
pour ceux qui commencent, c'est bien.
Non,
parce
non,
que les commencent, quand on a déjà 150 publications, on met ça, ça prend du temps. Et
on a un côté le
quand
CV d'un professeur qui fait 80 pages.
CV.
Juste les
extraire les publications qui veulent faire apparaître.
On fait ce genre de choses-là parce qu'on sait que le rétrospectif, c'est le plus gros.
Oui. Et ceux qui commencent, on va la faire. Oui. Et de nouveau, comme on dit, il n'y a pas de filtre de qualité.
Ah non.
On peut mettre aussi un article qu'on a pondu qui n'a jamais été lu par personne. Ou quoi.
Okay. Ça, c'est vous qui décidez l'image de votre production scientifique que vous voulez mettre en avant. C'est un professeur qui communique beaucoup dans la grande presse, stock, dans diffusion, toutes les références de leur communication dans la grande presse, leur soir, dans le monde.
Et,
on peut y mettre des amours, on peut y mettre toutes sortes.
Il risque d'y avoir du bruit de fond très important.
Je ne crois pas, parce qu'à partir du moment où on va regarder ce que fait quelqu'un, ce ne sera pas avantageux pour lui de mettre des choses qui ne sont pas correctes.
Alors,
pas
sur Facebook Non, mais si, sans photo.
Je ne crois pas.
En principe, non. Normalement, c'est une question de sérieux, effectivement.
Oui. Au niveau de l'auto-plagiat, par rapport à une publication, par exemple, quand on publie une thèse et qu'on veut publier des articles qui par après, et quand on a publié dans une conférence, moi, j'ai été fortement conseillé de reprendre ce que j'avais présenté dans une conférence et de le publier dans un journal, parce que le poids d'un article dans un journal n'est pas le même que celui qu'a une présentation, même avec le feeling dans une conférence. Moi, je me posais quelques questions par rapport à la présentation du projet de la prochaine, par exemple, à la gestion de ces publications, en fait. Donc, à partir du moment où on a publié une thèse, qu'on a rendue publique via des diffusions ou via d'autres moyens, quand on reprend une partie des résultats pour en faire une publication, comment peut-il gérer les données?
Ça, c'est très délicat, ça, parce que, effectivement, nous, on publie à l'université toutes les thèses. Et je pense que vous devez référer par rapport à votre thèse.
C'est publié dans des proceedings, pour reprendre les proceedings, s'il y en a.
Les proceedings, ça, c'est des extraits de l'archive, c'est ça, peut-être, ce sont des. Le procédé d'une conférence d'un congrès.
Oui,
congrès.
Mais on
peut
quand même écrire un article, donc un article de ces publiés.
Oui. Ça, je l'avais montré, en général, on peut éventuellement. Ça, c'est considéré comme publication, un proceedings, oui. Mm-hmm. Il y a différents types de proceedings, mais on peut parfois, dans sa publication plus étendue, se référer à ce proceedings, oui. C'est pas une extenso nécessairement. Quelques aspects de ce proceedings peuvent s'y retrouver. Mais il faut le dire, ça. Et puis, ça vous donne une paternité, puisqu'en général, le proceeding, ça a été publié un an avant. Et donc, ça vous donnera aussi une paternité dans la découverte. Oui, mais il faut se le rappeler, on peut le rappeler en tout cas. Oui, mais pas une extenso, ça est délicat de faire une extenso.
Je voudrais juste rajouter que ça dépend très fort d'une discipline à l'autre. Hein, parce que
aussi.
Les actes de conférence sont très très importants en polytech, par exemple. De publier, enfin, d'avoir son sa conférence acceptée dans une conférence de l'IE ou je ne sais quoi, je sais que ça a bien plus d'impact que un article dans une revue.
Oui.
Donc ça dépend vraiment des disciplines. Oui. Et que là, ce serait l'inverse qui se passerait. Je vais faire un article après avoir fait.
Ça dépend si cet abstract est cité. L'importance de la citation aussi est énorme. Bien sûr, ça peut avoir un impact dans votre CV, parce que vous postulez. Mais si personne ne le sait, que vous avez fait ce proceeding, c'est pas très intéressant quand même. Donc il y a une question de citation. Pour pouvoir être cité, il faut quand même publier dans des revues à grande ouverture. Et dans des accès à grande ouverture, me semble-t-il. Ou à grande audience. Ouverture comme ça, ou grande audience.
Ça revient avec ce que vous avez dit. Chaque thèse a dû être publiée.
Chaque thèse doit être publiée.
Mais souvent les thèses déjà. Plusieurs, moi je vais raconter un chapitre qui sont des études de cas qui ont déjà été publiées dans des revues scientifiques. Mais lorsque je vais faire ma thèse, ce sont des chapitres qui sont déjà publiés. Comment on fait pour le droit d'auteur là.
Mais pour la thèse, ça ne pose. Enfin, pour l'université, ça ne pose pas de problème. Quand vous déposez votre thèse dans BigTel, donc dans le répertoire des thèses, vous devez vérifier dans les contrats d'auteur, de droits d'auteur que vous avez signés, est-ce que vous pouvez reproduire dans votre thèse les articles. Donc tant que c'est pas diffusé en dehors du jury de la thèse, il n'y a pas de problème. À part, vous devez vérifier que vous pouvez le déposer en open access dans BigTel. Si vous ne pouvez pas, vous mettez les références des articles, vous mettez les liens vers les articles.
Ça fait des choses. Qu'on remarque, parce qu'on ne pense pas, nous, par exemple, en faculté de pharmacie, on va faire face, on va faire ce qu'on met. Dans les thèses, on met des articles complets parfois dans la thèse. C'est dangereux.
Non, je crois que tant que la thèse n'est pas publiée, donc publiée, c'est-à-dire elle est diffusée en dehors de l'université.
Nous, à l'université, on la met dans
les
thèses.
Oui, alors là, il faut vérifier.
Il faudra faire attention.
Vous pouvez être obligé de mettre la date des matières en libre accès et le résumé.
D'accord.
Et le fichier, vous pouvez le mettre en
d'accord.
Aussi. Hein.
Mais je crois que je dois rappeler en faculté parce que beaucoup ne savent pas.
Il y avait trois accès.
Beaucoup ne savent pas.
Soit bloqué, soit intraduit.
Parce que c'est. Là, c'est effectivement, on n'y avait pas pensé. Je n'avais pas pensé à ça. Ah bon ? Là, il est pas trop.
As far as I'm concerned, if you've published articles separately as part of your work or your thesis, then when you publish your thesis, that collection with a covering whatever is acceptable and normal use in several countries. And the reuse of all those articles is a normal use which you can get permission free, always, all publishers for this purpose. Because that's the mechanism in this country and in Scandinavia and so on.
Okay.
I see.
Tant mieux, heureusement. This is true, that's fine.
I see no problems whatsoever. You may have to ask each of the publishers with electronic software, can I reuse my thesis? Yes. Can I use it? Yes. And then you get this automatic electronic approval.
Okay.
But at the same time, that's a small thing because the important thing is your thesis, your published peer review articles. High quality, which helps you get your PhD.
Yeah.
Okay.
So, but the question is, however, is Elsevier very strong in attacking sometimes people? Have you any information about
they're not
aggressive? It's of course official, but is it really acting like this? No, not
at the same time. The reuse of, or the use of your material for yourself is very, very liberal. And in fact, an Elsevier page of author rights, there's all the things you can do. And it is liberal, because, let's face it, it's your research.
Yes.
Pourquoi faut-il céder tous ces droits, alors, si après on peut quand même les utiliser? Why do we have to transfer all the copyright to the publisher if we can, as an author? No, I know we don't have to, but that's the basic contract.
It makes it easier for us to distribute worldwide.
Well, if you just have reproduction, communication, right, it's enough.
Yes, that's also true. This is a way forward. For example, if you work for Her Majesty's Government in the UK, you cannot grant copyright.
Mm-hmm.
You grant use.
Yes.
And that publishers are very happy with and work with. So we work with what we've got. We are not dragons.
Mm-hmm. So the authors have the power to change the situation.
If they feel strongly, absolutely.
Okay, we've heard it.
Bien, je vous remercie pour votre intérêt pour ce premier séminaire. Il y en aura probablement d'autres et je remercie surtout tous les intervenants de cet après-midi.